Bonsoir à toutes et à tous. Pour alimenter notre discussion, envoyez-nous dès à présent vos messages par SMS, par Internet et par les réseaux sociaux. Ce soir, nous parlons des États-Unis. Ces derniers jours, Trump encaisse des coups. Alors, un livre brûlot signé de sa propre nièce, la crise du Covid qui s'aggrave, un meeting annulé et même les réseaux sociaux qui se retournent contre lui. Et si celui qui avait un genou à terre aujourd'hui, eh bien c'était finalement ce président Trump, ce président boxeur qui se revendique anti-système, qui a placé sa famille aux commandes, qui a résisté à l'impeachment. Mais jusqu'à présent, rien n'a vraiment réussi à le faire vaciller, pas même les affaires russes et ukrainiennes. Sauf que cette fois, sa base se fissure, certains républicains, son propre camp, font désormais campagne contre lui et les sondages nous racontent une autre histoire. Alors, Covid, crise, la chute de Trump, c'est le thème de notre émission ce soir. Pour en parler avec nous, Anne-Lorraine Bujon, vous êtes la directrice de la rédaction de la revue Esprit. Bonsoir à vous. Bonsoir également, Laure Mandeville.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Figaro. Qui est vraiment Donald Trump? Ça, c'est le titre de votre dernier ouvrage. C'est paru aux éditions des Équateurs, Le Figaro. François Durpère, vous êtes historien. La civilisation américaine, c'est votre dernier livre. Publiez-vous au PUF. Et je signale quand même que vous venez d'obtenir le prix France Télévisions du meilleur essai 2020.
Oui.
Histoire mondiale du bonheur, voilà. C'est paru au Cherche Midi. Laurence Nardon, vous êtes également avec nous, merci. Spécialiste des États-Unis à l'IFRI, chaque semaine vous publiez, vous c'est le son, un podcast qui s'intitule Trump 2020. Et puis en Skype avec nous, Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Nicole Bacharan, votre dernier ouvrage, Le monde selon Trump, est aux éditions Talendier. Alors bienvenue à tous les cinq et merci de participer à ce C'est dans l'air. En direct, on va démarrer avec vous, Anne-Lorraine Bujon. Dites-nous si vous, vous avez le sentiment, comme moi, que la campagne, là, elle est à un tournant, qu'il se passe quelque chose.
Oui, tout à fait. Le vent politique a tourné pour Trump. On le sent. L'avance de Biden dans les sondages se creuse encore, même si, il faut toujours le dire, c'est encore dans 4 mois. Il faut toujours être prudent. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais là, quand même, les signaux s'accumulent. Que là où on disait, il y a quelque temps, Trump pourrait-il perdre, maintenant, on dit Trump pourrait-il encore gagner. Enfin, est-il encore temps pour lui d'effectuer un retournement. Je crois aussi qu'il faut dire que c'est très surprenant, en fait, parce que en réalité, depuis 3 ans, il s'est passé un nombre de choses incalculables, de transgressions, d'affaires, vous l'avez rappelé, d'enquêtes, de procès en destitution, et rien de tout ça n'avait vraiment changé les paramètres politiques. Mais là, on a cet enchaînement avec la crise du Covid, ses conséquences économiques, peut-être, surtout, et puis la vague d'émotions, de manifestations qui suit le meurtre de George Floyd aux mains de la police. Et donc là, réellement, tout a basculé.
On va en parler. François Durpère, si on regarde justement ces chiffres, ces sondages, cette cote de popularité, là, on est à quel étiage? Est-ce qu'on a déjà vu ça?
Oui, alors il y a 5 minutes, on était à moins 9 encore en moyenne de sondage. Donc moins 9 Biden, par rapport à Biden, parce que Joe Biden, sauf là, immense surprise, sera le candidat démocrate. Il est à moins 9 en moyenne de sondage. Ça s'est déjà produit dans l'histoire. Il y a même un président qui est revenu de plus. Il est revenu de moins 11. C'était Harry Truman en juillet 48. C'est à peu près à la même période, même complètement à la même période. Mais généralement, quand on est à moins 10, Carter était à moins 10, Bush perd à moins 10, on perd. On perd les élections qui suivent. Si on fait... Alors, vous savez, là, si Trump écoutait notre émission, il y a peu de chances qu'il l'écoute. Mais il va dire, mais du temps que ce sont des sondages démocrates.
Il n'arrête pas de tweeter. Il dit de toute façon, moi, les
sondages... C'est des faux sondages, etc. Oui, alors, on va prendre un institut de sondage républicain. On va même prendre un institut de sondage pro-Trump, Rasmussen. Rasmussen le positionne à 39% aujourd'hui, c'est-à-dire la cote de popularité la plus basse de tout son mandat. Donc là, il est très, très bas. Alors, on peut dire aussi qu'Hillary Clinton était en avance par rapport à... et qu'elle a perdu.
Et que ça n'a pas marché, oui.
Évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait que Biden est beaucoup plus solide qu'Hillary Clinton, même s'il reste effectivement 4 mois, ça c'est la très bonne nouvelle pour Donald Trump, la seule, c'est deux choses. D'abord, c'est son électorat, l'électorat indépendant. C'est-à-dire que l'électorat indépendant ne déteste pas Joe Biden. Elle était très polarisante. Hillary Clinton, c'est très simple, elle était quasiment à 50% de non-sympathie. Lui n'est qu'à 28% de non-sympathie. Et l'électorat jeune, et ça c'est très différent, c'est-à-dire que ce que réussit à faire Joe Biden aujourd'hui, c'est s'entendre avec une task force commune avec Sanders. Et,
donc ça, c'est la gauche du camp,
démocrate. Il essaye de construire une plateforme commune avec lui.
Laure Mandeville, comment est-ce que vous, la grand reporter, vous regardez ce qui est en train de se passer? Il me semble qu'on a, eu une image un peu différente de Trump. Je pense à cette descente d'avion. Là, il revenait d'un meeting où il y avait des chaises vides, c'était à Tulsa. Et on a vu ce président défait. Est-ce que pour vous, il a changé d'état d'esprit? Est-ce qu'il est un peu KO? Je prenais l'image du boxeur, mais est-ce que vous le ressentez comme ça?
J'en suis pas sûre, vous dites le grand reporter, mais il ne faut pas oublier que le grand reporter regarde les événements finalement de loin. Et je crois qu'en fait, c'est là une des difficultés en fait, de l'analyse que nous avons à faire, c'est que nous regardons les choses de l'extérieur et nous sommes dépendants aujourd'hui d'une scène médiatique et politique ultra polarisée pour essayer de nous faire un avis. Et effectivement, des sondages. Mais on a vu sous Hillary Clinton que les sondages doivent être pris avec une extrême prudence. Et puis c'est vrai qu'on est encore très loin. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que effectivement, Trump est dans une position extrêmement difficile. Que quand il est revenu de ce fameux meeting, je pense qu'il était certainement très mari et de ne pas avoir eu cette espèce de bain de foule roboratif qu'il attendait. Mais je pense que je pense aussi que la crise du coronavirus a été quelque chose qu'il n'a toujours pas avalé. Il en parle d'ailleurs à chacune de ses interviews pour dire mais j'allais gagner, mes chiffres étaient bons, mon économie était formidable, j'avais rempli toutes mes promesses, je cocher toutes les cases, j'allais gagner. Et puis, il y a eu ce virus, il y a eu ce virus chinois, il y a eu cet ennemi invisible. Mais je pense que Trump compte sur la faiblesse de son adversaire. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. C'est-à-dire, je pense qu'il est extrêmement difficile de se rendre compte si Joe Biden est un candidat solide. Comme le dit François Durper, je pense que Biden pose un vrai problème. Il y a des sondages qui disent qu'il y a je crois, 38% des électeurs américains qui se demandent si Joe Biden est en capacité intellectuelle à cause du ralentissement de la manière de parler, de s'exprimer.
Donald Trump a 74 ans.
Mais c'est vrai qu'il ne fait pas preuve du même punch. Donc je crois qu'il reste énormément de questions. Et il y a surtout aussi l'impact de cette crise dont on vient de parler, justement, de post-George Floyd. Comment ça va être perçu? Parce qu'on est rentré dans la nouvelle phase de cette crise.
Là, c'est
la fracture raciale, mais aussi l'espèce de révolution et d'explosion d'attaque, en fait, non plus seulement contre la question raciale, mais contre la culture américaine qui divise profondamment la société et qui pourrait faire revenir
Donald Trump.
On a le temps
d'y revenir. Laurence Nardon, donc Trump vient nous dire, Laure Mandeville, ne se voit pas d'effet. En revanche, il annule quand même le meeting qu'il avait prévu aujourd'hui dans le New Hampshire. Est-ce que c'est un rapport
avec
l'échec
raisons,
à tout ça
je pense que l'échec... Tout à l'heure, quand vous avez commencé à nous poser des questions, vous avez parlé de sentiments. Et je pense qu'effectivement, le problème que nous avons à analyser les chances de Trump par rapport à celles de Biden aujourd'hui, c'est que cette idée que Trump ait basculé tout à coup dans une spirale de loser, ce qui est vraiment pour lui le truc le plus horrible, ça reste pour nous très subjectif. Pour tous les observateurs, ça reste quelque chose de très subjectif. Qu'est-ce qui fait que, tout à coup, le vent a tourné pour Trump? Puisque, comme Anne-Lorraine Bujon l'a dit tout à l'heure, pendant 4 ans, il a été totalement inoxydable, malgré toutes ses transgressions et ses sorties de route.
Monsieur
et là,
Teflon,
tout à coup,
rien
adhéré. Absolument, c'est un surnom bien connu. Et là, tout à coup, on a l'impression que le vent a tourné, mais alors jusqu'à quand et jusqu'à où? Je pense que l'annulation de son meeting de ce soir est un signe, même s'il l'attribue au fait qu'il ne faut pas tenter le diable avec le Covid-19 et augmenter les infections. Il y a quelque chose, à part les sondages, que l'on peut mesurer, pour essayer d'être pas dans la subjectivité, mais dans le rationnel, c'est les rentrées d'argent. Et en juin, pour la première fois, la campagne de Joe Biden a fait rentrer plus d'argent, plus de 80 millions de dollars, que celle de Donald Trump, qui n'avait fait rentrer en juin que 74 millions de dollars. Les montants sont un peu ne sont pas très éloignées, mais c'est quand même les courbes qu'il faut regarder. Parce que jusqu'à présent, Trump engrangeait énormément d'argent.
Les levées de fonds étaient plutôt en sa faveur.
Absolument.
Et Biden, là, reprend la main. Nicole Bacharan, je me tourne vers vous. Il y a quelque chose... Là, Laurence Nardon employait le terme de spirale de loser. là, il s'est passé quelque chose quand même ces derniers jours. La Cour suprême a dit... Oui, Donald Trump doit présenter ses feuilles d'impôt à un procureur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit, qui est très fort dans l'opinion américaine, qui va jouer un rôle dans cette campagne ?
En tout cas, traditionnellement, depuis Jimmy Carter, tous les présidents américains présentent leurs feuilles d'impôt. Non seulement celles quand ils sont en poste, mais celles qui précèdent pendant plusieurs années. Donald Trump s'y est toujours refusé. Alors cette décision de la Cour suprême, elle est désagréable pour lui de deux manières. D'abord parce que c'est une décision qui a été prise par 7 juges contre 2, donc une très forte majorité. Et dans ces 7 juges, Il y a les deux qu'il a nommés lui-même, Brett Kavanaugh et Neil Gorsuch, dont des juges très conservateurs, dont il attendait qu'il soit totalement à sa botte, si j'ose dire. Et on voit qu'il n'en est rien, qu'une fois la Cour suprême, ces juges nommés à vie cherchent aussi à protéger leur propre réputation et leur propre legs juridique. Bon, il ne faut pas non plus penser que ça met Donald Trump dans les cordes. On sait... qu'il y a des choses dans ses impôts, des manipulations qu'il ne souhaite vraiment pas voir en plein jour avant les élections. Mais le jugement de la Cour suprême a simplement dit « Le président des États-Unis n'est pas au-dessus des lois. »
Ça, c'était la une du New York Times. Oui. C'était la une du New York Times hier.
C'était la tête de Donald Trump. Voilà. « J'ai une immunité totale. » Non, dit la Cour suprême. Mais dans un deuxième temps, la Cour suprême dit « aux cours inférieures, notamment au tribunal de New York, d'argumenter un peu mieux leurs raisons pour avoir ces feuilles d'impôt, particulièrement des années 2015-2016. Et là, évidemment, il est évident que de tribunal en tribunal, on ne verra pas cette feuille d'impôt avant les élections. La seule chose que l'on peut dire pour regrouper tout cela, c'est que pendant longtemps, au fond, l'économie prospère a acheté le silence des opposants à Donald Trump ou de beaucoup d'opposants. Et que maintenant, tout d'un coup, pour lui, plus rien ne marche. Il y a le virus, il y a l'économie. Un quart des Américains en âge de travailler n'ont plus de travail. Il y a évidemment toutes les manifestations autour de la question raciale. Et ce qui faisait la force de Donald Trump, à la fois l'économie et puis cette agitation de tweets, d'insultes, d'événements choquants où il captait l'attention, et bien tout d'un coup, avec le virus, avec la crise économique, toutes ces choses très graves, pour les Américains, ça n'est plus qu'un bruit de fond. Ils sont crevés, ils sont épuisés.
On va détailler tout cela. Donald Trump peut-il encore rebondir ? Depuis plusieurs semaines, on vient de le dire, hein, les mauvais sondages s'accumulent. Trump dévisse, bien sûr, à cause de la crise du coronavirus, mais il est aussi plombé par son propre camp. Sa nièce, sa famille, s'apprête à publier un portrait au vitriol et la Cour suprême, on vient d'en parler, pourtant acquise à sa cause, lui demande de ne plus cacher ses feuilles d'impôt. Le rappel des faits, nous le faisons avec Antoine Magnan et Erwan Illion.
Donald Trump enchaîne les revers de jour en jour. Il devait relancer sa campagne avec un nouveau meeting ce week-end, mais pas de chance, la météo en a décidé autrement.
La tempête tropicale Fay va probablement frapper le New Jersey très bientôt. Nous attendons. Nous sommes pleinement préparés. Les prévisions sont mauvaises. Ça ne devrait pas être trop mal, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais.
C'est donc officiellement à cause de la météo que le rassemblement ne se tiendra pas, mais n'est-ce pas plutôt pour des raisons sanitaires ? Il y a 3 semaines, il faisait campagne à Tulsa devant des milliers de militants. Depuis, le nombre de personnes testées positives au Covid-19 a flambé dans la ville. Sur le moment, le candidat républicain se félicitait de voir ses supporters braver les règles de distanciation, le tout sans porter de masque.
On vous a dit de ne pas venir, de ne pas y aller, de ne rien faire. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes des guerriers, merci.
Un président américain sous le feu des critiques pour sa gestion d'une pandémie qui ne cesse de s'aggraver. Hier, près de 70 000 nouveaux cas ont été détectés aux États-Unis, un record. Qu'importe, pendant la fête nationale, le président continue de minimiser la dangerosité du virus.
À ce jour, nous avons testé presque 40 millions de personnes. Ainsi, nous mettons en lumière des cas. 99% d'entre eux sont totalement bénins.
Recadrage immédiat du directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci.
J'essaye de comprendre où le président a obtenu ce chiffre. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que quelqu'un lui a dit que la mortalité générale était d'environ 1%. Et il a interprété en disant que 99% n'avaient pas de problème, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Le président joue avec le feu et les sondages dévissent. Aujourd'hui, il est impopulaire chez 67% d'Américains. Face à Joe Biden, il est donné en retard de 10 points dans plusieurs états clés. Et le candidat démocrate a bien compris sur quel thème attaquer son adversaire. We are finally putting America first. Avec cette vidéo postée hier sur Twitter, où il affiche le nombre record de morts aux États-Unis. Trump en difficulté face au virus, mais également lâché par sa propre famille. Dans 3 jours, sortira le livre de Marie Trump, la nièce du président américain, avec ce titre « Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux au monde ?» Et les premiers extraits font déjà la une des médias américains.
Les pathologies de Donald sont si complexes et ses comportements souvent si inexplicables qu'établir un diagnostic complet demanderait toute une batterie de tests psychologiques et neurophysiques qu'il ne passera jamais.
Jeudi, c'est la Cour suprême qui lui inflige un nouveau revers. Jusqu'alors, le président américain refusait de rendre publique sa situation fiscale. Réponse de la plus haute juridiction américaine, Donald Trump n'est pas au-dessus des lois et doit transmettre à la justice ses feuilles d'impôts.
C'est une chasse aux sorcières politiques comme personne n'en a jamais vu. C'est un canular.
Il reste moins de 4 mois au candidat pour déjouer tous les pronostics et recréer la surprise comme il y a 4 ans.
Et voici une question qui nous est parvenue par nos téléspectateurs. Quid du contenu du best-seller de la propre nièce de Trump, Marie Trump, donc François Durpère, je crois que vous avez lu Les Bonnes Feuilles.
Oui, un intérêt vraiment de cet ouvrage, qu'on a eu beaucoup d'ouvrages sur Donald Trump, c'est un, c'est la famille, et deux, elle a fait quand même un doctorat en psychologie clinique, c'est assez précis, et à la fois même un peu bienveillant, on a l'impression que c'est vraiment à charge, et dit en fait tout le problème, il vient du papa, Fred, qui lui a absolument privé de complètement toute affection, et ça a généré quelqu'un eh bien, qui est, elle utilise cette expression, de positivité toxique. Il est incapable de finalement faire face à une situation difficile. Dès qu'il y a une défaite, il a tout en victoire. Vous vous souvenez des mid-termes, défaite, chambre des représentants perdue pour les républicains, et il dit énorme victoire, formidable victoire. Cas d'école, on le voit aujourd'hui, avec le Covid-19. Covid-19, regardez les chiffres, vous les avez cités, enfin, 33 États voient aujourd'hui un chiffre spectaculaire, 38%, enfin, je ne donne pas tous les chiffres. Ils sont considérables et il redit que c'est lié à l'augmentation des tests, que 90% c'est bénin, que le remède va arriver là maintenant.
Ce qu'elle dit, Marie Trump, c'est je ne peux pas laisser détruire mon pays. Elle le décrit donc comme quelqu'un qui refuse l'échec, mais elle dit aussi que ça peut être très grave pour la démocratie américaine. Mm-hmm. Ça peut porter ça, Normandville, que la famille dise. Si vous ne faites rien pour l'arrêter, ça va être grave pour le pays.
Oui, je ne suis pas certaine que sa voix portera là-dessus. Moi, je pense que c'est très intéressant ce qu'elle raconte pour comprendre Trump, qui il est et comment il fonctionne. C'est-à-dire, je pense, comme François, que véritablement, elle apporte des choses qui étaient déjà connues, mais des éléments sur la psychologie de Trump et le fait qu'il n'accepte pas la défaite. Et en fait, je pense que... Donc, elle parle de positivité toxique, mais les gens qui le défendent disent que au fond, Trump, d'abord, c'est un commercial, c'est-à-dire que dans l'art du deal et dans tout son comportement en tant qu'homme politique, il reste le commercial qu'il a toujours été, c'est-à-dire qu'en fait, il sait qu'il faut toujours vendre du rêve. Et donc, quelle que soit la situation, il montre le bon côté. C'est-à-dire, quand vous avez une mauvaise voiture, vous dites qu'elle a une belle carrosserie. Et en fait, il fait tout comme ça. Et aussi, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'il sait toujours... Donc, en fait, comme il positivise tout ce qu'il fait, quoi qu'il arrive. C'est absolument fascinant quand vous regardez...
Oui, là, il se heurte à la réalité. Oui, vous avez, par exemple,
exactement.
Le docteur Fauci, Anthony Fauci, oui. Qui est le spécialiste des maladies infectieuses au plus haut niveau dans le gouvernement. Là, il est en train de... Vu la gravité de la situation, il est en train, Laurence Nardon, de s'éloigner, de prendre ses distances avec Trump.
Fauci, mais ça fait depuis le début qu'on voit bien qu'ils s'entendent assez mal, puisque Fauci est un médecin, il dit la vérité, qui est très dangereuse. Et alors qu'effectivement, Trump cherche à rendre la situation positive par tous les moyens. Mais je pense que plus largement, en fait, le problème, il y a un problème Trump qui est lié à la psychologie du personnage, ses dérives narcissiques, son problème avec le fait de perdre, etc. Mais il y a un autre problème qui est le programme et l'Amérique qu'il représente. Et là, ça dépasse Trump, parce que clairement, il a été élu par beaucoup d'Américains, alors pas la majorité nationale, on le sait, mais enfin quand même un nombre d'Américains importants et qui a suffi à l'amener à la Maison-Blanche. Et ces gens-là, ils n'ont pas été trompés par Trump. Ils ont voté pour un type qui leur proposait un programme de fermeture, de repli, xénophobe sur les questions migratoires, protectionniste sur les questions commerciales. Ces gens-là ont voté pour lui en connaissance de cause. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, et je pense que dans les 1000 ans qui viennent, on va s'interroger sur la psychologie de Trump, mais il faudra bien voir que ce personnage politique a été élu sur une vraie colère de l'électorat américain porté depuis la crise de 2008. Et là-dessus, il faut vraiment s'interroger.
Et est-ce que Anne-Lorraine Bujon, là-dessus, il a satisfait cet électorat ou est-ce qu'il les a déçus ?
Alors, il a gardé cette base d'électeurs pendant très longtemps et encore aujourd'hui, on voit que ces électeurs qui lui étaient acquis, lui sont encore acquis. Mais enfin, ça se dégrade un tout petit peu et puis ça dépend des sujets. Par exemple, aujourd'hui, quand on demande à sa base électorale ou aux républicains ce qu'ils pensent de la façon... Enfin, donc, overall favorable ratings, on est autour de 40%, voilà.
Alors,
quand
ça, on demande, non, mais ça, vous allez nous le traduire.
Pardon. Non, quand on demande, en gros, est-ce qu'il trouve que Trump... s'occupe bien des affaires du pays. Est-ce que Trump s'occupe bien des affaires du pays ? Autour de 40%, donc, qui trouvent que oui. Mais ensuite, si vous le demandez, est-ce qu'il réagit bien à la vague d'émotions et de manifestations qui a suivi le meurtre de George Floyd ? Est-ce qu'il adopte la bonne attitude face à la question de l'injustice raciale et sociale aux États-Unis ? Là, on tombe en dessous de 30. Donc, il y a quand même aussi quelque chose qui est un peu en train de se fissurer sur ce sujet-là et sur la gestion de l'économie, parce que cette Amérique blanche en colère, ce qu'elle voulait, c'est de l'emploi. Et ce qui est en train de se dégrader à grande vitesse, là, c'est l'emploi.
Nicole Bacharan, l'emploi, c'est parce que l'économie, elle s'est arrêtée. Et là, c'est le Covid, en fait. C'est la pandémie qui fait tout basculer dans la popularité de Trump.
Oui, bien sûr. À la fois les conséquences économiques évidentes, tragiques, et qui ne sont pas qu'aux États-Unis. Là, Trump ne peut pas être incriminé particulièrement, d'autant plus qu'il a approuvé un plan de soutien de l'économie très important, même si on sait déjà que ça sera insuffisant. Mais néanmoins, l'économie ne peut pas repartir, ne peut pas se revivifier si la pandémie n'est pas maîtrisée. Et là, Donald Trump est franchement en faute. Évidemment, les États-Unis, c'est 50 États, c'est un territoire immense, mais c'est un pays très développé qui a beaucoup de moyens. Il n'y a pas de raison que sa gestion de la crise soit la plus mauvaise du monde, et c'est ce qu'on a l'impression de voir à l'heure actuelle. Les gouverneurs font ce qu'ils peuvent, mais il manque une force fédérale, une direction fédérale, donc venue de la Maison-Blanche, qui prenne les initiatives nécessaires pour l'ensemble du pays. Tout ne peut pas être fait au niveau local. Et là, vous le disiez très justement, Donald Trump se heurte au réel. Il cherche à vendre, je l'emploie dessein le mot vendre, la situation sanitaire comme finalement pas si mauvaise, et puis ça va passer, comme il faisait vendre des steaks ou des matelas. La seule chose, c'est que ce n'est pas vrai. Et que là, il ne s'agit pas de sourire, comme les téléspectateurs ont pu le faire autrefois devant ces frasques. Les gens tombent malades, les gens perdent leur emploi, perdent des proches. Et là, ce réel-là, Donald Trump, visiblement, ne l'appréhende pas. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il perd des points.
On peut s'arrêter justement sur la gestion de la pandémie par Donald Trump. Il avait fait du masque un marqueur politique. Hein. Je ne le porte pas. Ce marqueur, il est en train de lui coûter très cher, Laure Mandeville.
Oui, en fait, il continue, en fait, d'une certaine manière, à ne pas porter ce masque, comme vous le savez, puisqu'il dit, moi, je suis très protégée, je n'ai pas besoin de le porter, je n'ai rien contre le masque, les gens le portent. Mais moi, je pense que surtout, il a fait porter au gouverneur l'essentiel des décisions. Et en se disant, au fond, finalement, je suis dans un État fédéral, les questions sanitaires, c'est les États fédérés, qu'ils prennent leur responsabilités. Moi, je les aide, j'ai mis en place une production énorme de ventilateurs, de masques, etc. Donc, il pense qu'il a fait le job. Je pense qu'il a, il y a aussi un élément qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que Donald Trump, il joue la carte quand même de l'économie dans tout ça. C'est-à-dire que lui, depuis le début, il fait appel à cette Amérique qui ne pense pas qu'on doit tout arrêter au nom de la santé. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dilemme.
Est-ce que ça n'est pas en train, c'est le dilemme que toutes les économies, mais tous les pays ont connu, est-ce que ça n'est pas en train, François Durper, de lui revenir en boomerang? Est-ce que, si on regarde l'ensemble des Américains, est-ce qu'ils sont persuadés, comme Nicole Bacharan, eux, d'avoir la gestion la plus mauvaise du monde? Est-ce que c'est ce que pense une majorité d'Américains? Est-ce qu'on peut être sûr de ça, ou est-ce qu'ils sont contents?
Non, on sait que là, ce qui est en train de se passer, c'est effectivement une tension avec les gouverneurs qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur les écoles. C'est, les Américains se disent, mais pourquoi les Européens sont en train d'ouvrir leur école, et puis pourquoi nous, nos écoles, c'est toujours... Et Trump dit, ben oui, il faut ouvrir les écoles.
Il pousse,
notamment les gouverneurs démocrates, à dire, il faut ouvrir les écoles. Et les Américains, certains ont peur en disant, mais où on va? Est-ce qu'il y a vraiment une direction? Et où on va? Et sur la question économique, regardez quand même, c'est vraiment une bascule terrible, parce qu'il y a eu ce grand discours cette semaine de Joe Biden qui dit il faut acheter américain. Voilà. Il reprend en fait l'argument, peut-être presque un hommage à Donald Trump, puisqu'il reprend sur ces thèmes de l'économie et du nationalisme, qui sont
c'est
les thèmes de Trump.
Plagiat, d'ailleurs.
Exactement,
Trump
mais oui, mais voilà, on était dans America First, aujourd'hui on est acheté américain.
Mais le sujet pour les électeurs de Donald Trump, c'est quand même...
Ça sera l'économie.
Est-ce que Anne-Lorraine Bujon, est-ce que le sujet c'est de voir ces files de chômeurs, ces images impressionnantes, est-ce que pour eux c'est ça qui compte?
C'est les files de chômeurs. Il faut toujours rappeler aussi que pour un certain nombre de ces chômeurs, ça veut dire avoir perdu ses droits à la sécurité sociale, donc ça veut dire être exposé de façon très radicale du jour au lendemain, avec parfois des dettes, avec peu d'épargne. Exemple, à New York, c'est la soupe populaire, hein. C'est 2 millions de personnes dont on pense aujourd'hui qu'elles sont dépendantes de l'aide alimentaire à New York. Donc évidemment, il y a en tout cas beaucoup d'électeurs qui trouvent que la gestion de la crise par Trump est calamiteuse. Mais en réalité, ils payent aussi des politiques structurelles qui datent d'il y a 10, 20, 30 ans. Ce qu'il y a, c'est que cette crise, c'est un révélateur, et elle révèle aussi des inégalités profondes, et qu'il y a des poches de pauvreté, et qu'il y a des poches de violence et des poches de criminalité, des gens qui n'ont pas d'assurance maladie, et tous ces maux dont on sait que les États-Unis souffrent.
Laurence Nardon.
Oui, il faudrait ajouter aussi qu'il y a eu cette loi, en fait il y en a eu 3 ou 4 votées de manière extrêmement bipartisane ces derniers mois au Congrès, il faut le souligner, parce que les lois votées par les deux camps en ce moment, il y en a peu. Mais je veux parler de la loi CARES, qui est une loi qui a débloqué 2000 milliards de dollars, une somme absolument énorme, pour venir en aide justement aux foyers américains. Donc a priori sur le papier, merveilleux. Et on se rend compte que cette loi, cet argent ne va pas forcément être utilisé de manière rationnelle. On parle déjà de détournement organisé par le clan mafieux autour de Trump.
Ça ne parvient pas au destinataire.
C'est pas que c'est mal ciblé. À mon avis, c'est bien ciblé.
C'est bien ciblé, mais c'est franchement détourné.
Il y a des profiteurs de guerre qui sont proches du camp Trump, et c'est extrêmement grave. Je pense que ce sera la matière de procès pendant plusieurs années après la fin de la présidence Trump.
Nicole Bacharan, si on regarde l'électorat de Trump, les personnes qui ont voté pour lui en 2016, on sait qu'il y a des seniors, on sait qu'il y a peut-être des blancs peu diplômés ou sans diplôme. Est-ce que ces gens-là, justement, sont en train, est-ce qu'on le voit dans les sondages, sont en train de changer d'avis?
En tout cas, cette base électorale qui vraiment lui a été fidèle jusqu'à présent, très fortement, autour de 40% de l'électorat, et qui vraiment l'a suivi jour après jour, quels que soient les scandales, quels que soient les grossièretés ou les éléments choquants, cette base-là, elle est toujours là, mais elle s'effrite un peu. Et c'est là qu'est le danger pour lui. Vous parlez des seniors, vous avez totalement raison. On sait qu'ils sont davantage vulnérables à la pandémie, et notamment à ses conséquences les plus graves. Les femmes également, qui au fond, dans les familles malgré tout, sont celles qui prennent en main le plus la question de l'alimentation, la question de la santé. Celles qui ont voté Trump, ils perdent des points parmi les femmes. Il perd des points parmi les seniors, il perd des points parmi les indépendants, qui se disaient après tout, l'économie c'est quand même le plus important, or cette économie aujourd'hui n'est plus là. Il perd des points notamment chez les femmes blanches les plus éduquées, qui avaient voté Trump pour certaines, pas toutes bien sûr.
Et chez les évangéliques. Et chez les évangéliques,
n'est-ce pas ? Et chez les évangéliques, et dans les deux cas, à cause de sa réaction d'une dureté extrême face aux manifestations qui ont suivi l'assassinat de George Floyd. Bien sûr, Donald Trump a totalement condamné cet assassinat, mais après cela, il n'a rien offert, mais rien, à tous ces gens qui manifestent pour plus de justice raciale et contre les violences policières. Et le fait de mettre dans le même sac de tous les manifestants comme des anarchistes, le fascisme d'extrême gauche qui vient, ça choque moralement une partie des électeurs de Trump qui, donc, eux aussi, ont été indignés par l'assassinat de George Floyd.
Donc si on fait une photographie aujourd'hui, on parle toujours leur monde de ville des swing states, n'est-ce pas, ces États qui comptent. Il y en a une douzaine. Mm-hmm. Dans six de ces swing states, le démocrate Biden est devant.
Oui, c'est vrai. Encore une fois, je trouve extrêmement difficile de donner vraiment un avis tranché. Je suis très admirative de la manière dont Nicole nous dit que ça y est, il est lâché par tel ou tel groupe de la population. J'en suis pas encore complètement persuadée.
Mais il y a peut-être aussi le sujet, le fait que... Est-ce qu'il y a un autre républicain ? Est-ce que
je pense qu'ils
auraient un autre choix, oui, finalement, alors, les électeurs républicains ?
Je pense que... Que derrière Trump, qu'après Trump, est en train de naître l'émergence d'un nouveau parti républicain. Et je pense que c'est très important, c'est très intéressant qu'il y ait un certain nombre de jeunes conservateurs républicains qui vont utiliser le trumpisme pour redéfinir le parti républicain avec un élément, disons, social, qu'il a déjà en partie porté, d'ailleurs, avec sa renégociation des accords de commerce, etc., et son côté ouvriériste, parce que le Parti républicain était complètement à côté de la plaque en ce qui concerne les classes populaires.
Je vois tout le monde qui acquiesce à vos
donc,
propos.
Cet élément,
Anne-Lorraine Buge, oui.
Cet élément est important, mais pour lui, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que les gens sont dans un dilemme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains, effectivement, qui ont été choqués, là, je suis d'accord avec ce que dit Nicole Bacharan, c'est-à-dire ont été choqués par cette affaire George Floyd. Je crois qu'il y a une écrasante majorité des Américains qui ont été horrifiés par cette histoire, qui veulent que les relations raciales aillent mieux, qui sont prêts à s'investir. Je voyais un petit reportage qu'il y avait sur le comté le plus conservateur de Californie, où des gens qui votaient républicains, conservateurs depuis des décennies, étaient sortis dans la rue pour manifester pour ces manifestations. Mais ils sont... Ils trouvent que Trump n'est pas à la hauteur en termes d'empathie, en termes de rhétorique.
Donc il les bouscule.
Il les bouscule, oui.
Il les bouscule,
mais je pense qu'il ne trouve pas de l'autre côté les réassurances, on va en reparler, qui leur permettent de shifter. Donc je ne suis pas du tout sûre encore qu'ils aient fait leur avis. Peut-être qu'ils n'iront pas voter. Peut-être qu'il va les perdre et qu'ils n'iront nulle part.
En ça, tout c'est cas, aussi une option. Dans son propre camp, il a des opposants farouches, Donald Trump, qui veulent, ils le disent clairement, le faire tomber. Leur nom, Lincoln Project, leur stratégie, des vidéos choc et virales sur les réseaux sociaux. Les démocrates, eux, privilégient l'application TikTok pour mobiliser les jeunes dans la campagne. Laura Rado et Ilana Azinko ont analysé la nouvelle stratégie des anti-Trump.
And again, when you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero.
Close to zero. Close to zero. Close to zero. Close to zero. Close to zero.
C'est une vidéo coup de poing. Et ces dernières semaines, des clips politiques comme celui-ci se sont propagés sur les réseaux sociaux. Leur cible, Donald Trump et sa gestion de la crise sanitaire.
He still doesn't. He was never distracted.
And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer. And now, Americans are asking, if we have another 4 years like this, will there even be an America?
Les surprises, ces attaques ne viennent pas du camp démocrate, mais de républicains. Leur nom, le Lincoln Project, en hommage au président qui a uni le pays. Leur mission, battre Donald Trump en appelant à voter Joe Biden. Derrière ce groupe, des conseillers politiques de l'ombre. Ils ont travaillé pour les campagnes de George Bush, père et fils, ou de l'ancien sénateur John McCain. Pour eux, Donald Trump n'est pas un vrai républicain, ce qui justifie pleinement leur transgression.
Il est pour l'expansion des pouvoirs de l'État, du gouvernement. Il veut renforcer l'usage de la force et des pouvoirs exécutifs. Il ne croit pas à l'équilibre des pouvoirs établis par la Constitution. Ces principes sont étrangers à Donald Trump. Voilà pourquoi nous faisons tout pour le battre. Nous connaissons bien les électeurs républicains. Nous avons l'habitude de leur parler, de les convaincre. Donc nous pouvons utiliser le même langage, faire appel à l'iconographie qui leur parle. Nous savons attirer leur attention mieux que les médias ou les experts démocrates.
L'opération est déjà un succès. 210 millions de vues le mois dernier. Et à la clé, des millions de dollars collectés. Un autre groupe de dissidents républicains a aussi frappé fort avec cette vidéo. Un discours du président Ronald Reagan en 1980, mis en parallèle avec des images de l'Amérique d'aujourd'hui.
Together, tonight, let us say that America is still united, still strong, still compassionate, still willing to stand by those who are persecuted or alone.
Et puisque Donald Trump est obsédé par Twitter, c'est là, disent-ils, qu'il faut livrer bataille. Une offensive qui a capté l'attention du président.
De faux républicains ont copié un clip de campagne de Ronald Reagan, Morning in America. Aucune imagination. Je n'ai jamais fait appel à eux car ils ne savent pas gagner et leur projet Lincoln est une honte pour l'honnête Abraham.
Twitter, récemment concurrencé par TikTok. Plus jeune, mais déjà très politique et surtout de tendance démocrate. C'est sur ce réseau social qu'un canular orchestré par des adolescents a contribué à l'échec du meeting de Donald Trump à Tulsa. Parmi les stars de la plateforme, Sarah Cooper, cette humoriste ouvertement anti-Trump, s'est amusée à détourner des discours du président.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it. There's a tremendous number of lungs, so it'd be interesting to check that, so that you're going to have to use medical doctors.
Avec 22 millions de vues, sa parodie a fait exploser sa notoriété. Depuis, chaque intervention du président s'est transformée en matière inépuisable.
Ce que j'aime, c'est pouvoir en quelque sorte le tourner en dérision, enlever le podium et les gens derrière qui acquiescent. Le costume, le côté « je suis riche », il ne reste que les mots et mes mimiques pour que les gens puissent vraiment voir qu'il n'a aucune idée de ce qu'il raconte.
Donald Trump qui ces derniers jours parle même d'interdire TikTok. Selon le président, l'application d'origine chinoise pourrait être instrumentalisée par Pékin. Son autre défaut, le risque de lui coûter des voix lors de la présidentielle en novembre.
Et voici cette question qui nous arrive de nos téléspectateurs et que je retransmets à Nicole Bacharan. Qui se cache derrière le Lincoln Project ? Racontez-nous.
Eh bien, écoutez, on a vu un des fondateurs, Rick Wilson, et le deuxième fondateur s'appelle Steve Schmidt. Et c'est quelqu'un que je connais assez bien, que je me souviens de réunions après l'élection de 2008, donc l'élection d'Obama. On était un groupe de stratèges, moitié démocrate, moitié républicain, qui débriefions cette élection. Et Steve Schmidt était dans le camp des perdants, puisqu'il avait dirigé la campagne de John McCain. Bon, c'est un immense garçon avec un physique à la Bruce Willis, le crâne rasé, assez pittoresque dans son genre, et un vrai Américain, au sens que je me souviens particulièrement de ce dîner, où à la fin du dîner, il a porté un toast en se levant « To the President of the United States ». Ça veut dire « Ok, j'ai perdu, mais je souhaite pour l'Amérique que le président Obama réussisse ». Et ça, c'est une incarnation des grandes valeurs américaines qui n'appartiennent pas à un camp ou à l'autre. Et les gens du Lincoln Project représentent une aile traditionnelle du Parti républicain. Ce sont des conservateurs, ce sont des gens qui n'aiment pas beaucoup l'intervention de l'État, mais qui ont un grand respect de la Constitution et du cadre démocratique. Et pour eux, Donald Trump détruit le cadre démocratique. Et ce qui se joue pour eux, ils ne sont pas les seuls à le penser, dans cette élection, ce n'est pas un démocrate ou un républicain, c'est la survie de l'Amérique démocratique ou sa fin avec Donald Trump. Et donc, il représente quelque chose qui, visiblement, est en train de prendre pas mal d'importance dans les réseaux sociaux, notamment.
Alors, justement, c'est toute la question. Hein. Est-ce que les vidéos, elles sont chocs ? La vidéo avec Reagan, elle porte. Hein. Mais est-ce que ça peut peser ?
Bah, ce qui est vraiment important de rappeler, c'est le point auquel Trump, lorsqu'il a eu gagné les primaires républicaines avant 2016, c'était à l'été 2016, avant les élections, à partir de ce moment-là, il a complètement pris en otage le Parti républicain. C'est-à-dire que tous les républicains, à de très rares exceptions près, depuis ce temps-là, même s'ils n'aiment pas Trump, même s'ils détestent le personnage, sont, on pourrait dire, dans un état de sidération par rapport au président. Ils n'osent pas du tout se dresser contre lui. Ils le suivent, même quand ils n'aiment pas tellement ses politiques. Ils en aiment beaucoup, mais certaines les choquent. Et donc, voir quelque chose comme le Lincoln Project aujourd'hui se créer, c'est assez intéressant.
Mais c'est anecdotique, c'est une poignée.
Alors, jusqu'à présent, il y avait eu les Never Trumpers qui étaient anecdotiques. C'était effectivement quelques personnages. Et là, ce comité, pour l'instant, ne semble pas immense. Et il va falloir voir si sa présence en ligne génère plus de buzz.
François Durper, est-ce que dans l'histoire, on a vu déjà des républicains mener campagne contre le candidat républicain à 4 mois, vous l'avez tous dit, du scrutin ?
À ce point-là, non. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et on le voit bien, en 1960, les historiens continuent à en parler. Mais est-ce que peut-être la première élection qui s'est jouée à la télévision, hein, les débats, les fameux débats Nixon-Kennedy. Et là, peut-être qu'on aura la première élection qui va se jouer en partie sur le plan numérique. Et c'est lié évidemment aussi au Covid. D'abord, la première chose, c'est que les modalités du vote. Combien de personnes vont voter le jour même ? Combien vont voter par procuration ? La deuxième chose, c'est les plateformes qui sont de plus en plus importantes. Et là, ce n'est pas l'Agora, l'époque d'Athènes. Ces plateformes, elles sont privées. C'est TikTok, c'est Twitter, c'est Facebook. Ce sont des plateformes privées qui sont tantôt plateformes et tantôt médias. En disant, ben non, ça, c'est pas bien. Ce que vient de dire Trump, on va mettre un logo, puis on va dire, vérifiez bien, parce que ça, ça pose des problèmes. Et puis, c'est l'intervention de groupes de pression qui, tout d'un coup, vont avoir une influence politique notable par l'intermédiaire de ces réseaux. Alors, vous savez que 2016, il y avait une importance de ces identitaires blancs qui avaient envahi en particulier Twitter. Aujourd'hui, on a ces jeunes, et notamment, on peut prendre peut-être l'exemple de ces fans de K-pop qui ont réussi à complètement...
À vider la salle, lorsqu'il y avait le meeting de Donald Trump.
Demandé un certain nombre de places et puis ils ne se sont pas déplacés. Ils ont également essayé de polluer tous les hashtags de suprémacistes blancs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un hashtag White Lives Matter, on sait que derrière ce sont les suprémacistes blancs, et bien vous avez des stars de la K-pop, des stars coréennes qui apparaissent en nombre. Donc c'est, si vous voulez, de nouvelles manières de faire la politique. Et je ne vous cite pas les deepfakes. C'est-à-dire que maintenant, il faut se dire...
Alors, les deepfakes, c'est quand les vidéos sont travaillées et en réalité détournées.
Vous pouvez ralentir le débit de quelqu'un et dire, regardez, cette personne est un peu gaga, vous pouvez faire transformer... Exactement.
Il y en a eu des fausses. Sur Biden. Oui. Ils ont en fait travaillé des vidéos pour montrer qu'il était carrément débile. Et c'était faux.
Et Nancy Pelosi, ils avaient ralenti simplement son débit en disant...
Ça se joue sur le terrain des réseaux sociaux. Et apparemment, ces mêmes réseaux sociaux, ils sont en train de changer aussi. Ils sont en train de prendre position quelque part contre Trump.
Mais c'est-à-dire qu'en les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus grand. Et en fait, ça remonte quand même très loin. Parce que déjà, Obama, on avait mis l'accent sur tout l'argent qu'il avait réussi à lever avec les réseaux. Donc, en fait, ça remonte à 2004, je crois, l'utilisation des réseaux sociaux dans les élections américaines, et ça ne fait que progresser. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ça se répand, ça prend de l'ampleur, on a toutes ces initiatives, dont certaines très créatives, qu'on a vues dans le reportage, mais on arrive aussi à un point de maturité où ce qui arrive maintenant, c'est une demande de régulation des réseaux sociaux. Donc là, on a parlé des deepfakes, mais quand même, après l'élection de 2016, il y a eu toute cette histoire sur les ingérences électorales dans les campagnes américaines, et pas que américaines. On a vu que la question est venue aussi chez nous, la question est en Australie. Et donc, cette préoccupation du rôle que peuvent jouer l'ingérence électorale, la désinformation, les biais algorithmiques, c'est maintenant là, présent aussi, et il y a une pression pour réguler les réseaux ou que les réseaux s'autorégulent. Et ça, c'est ce qu'on voit avec Twitter qui décide maintenant de signaler quand des tweets lui sont semble soit faux, soit incité à la haine, ce qui est un autre problème. Et derrière Twitter, c'est Snapchat, Reddit, c'est plusieurs réseaux sociaux, et notamment ceux qui sont très utilisés par les jeunes, qui ont décidé un peu de prendre acte de ce que ce président faisait un usage qui leur semble négatif des réseaux sociaux, qui lui font de la pub, involontairement, et donc ils ont décidé d'agir. Sauf Facebook, qui pour l'instant résiste absolument à toutes les pressions et qui continue de dire nous ne sommes absolument pas responsables des contenus que nous publions, ce qui pose problème.
Un mot sur les réseaux sociaux.
Alors justement, il me semble que ce qui pose problème, c'est justement il y a aujourd'hui en fait un problème démocratique, enfin une vraie question démocratique avec les réseaux sociaux, qui sont tenus par 5 ou 6 grandes sociétés qui contrôlent pratiquement aujourd'hui, je dirais, 90% des flux d'informations qui sont lus, décryptés, etc. Donc il y a une vraie, un problème, et d'autant plus en fait que ces sociétés sont pratiquement toutes du même côté. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'est pas anodin, et il y a un vrai débat au Congrès avec une mobilisation notamment du Parti républicain et de certains démocrates qui sont pour la liberté.
Vous voulez dire que les réseaux, Twitter...
Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent...
Tout ça, c'est démocrate ? Ce sont des réseaux partisans ?
Bien sûr, ils sont possédés par des gens qui sont très engagés, ce sont des gros, très gros donateurs du Parti démocrate, et en fait, ils sont aujourd'hui partie prenante à la politique, tout en étant les récipiendaires de la
réseau
qui devrait être neutre.
Mais ce sont des questions qui se sont posées autrefois pour la presse, et on a décidé qu'il fallait réguler la presse.
Oui,
les GAFAM de nos deux partis.
On va laisser finir l'ordre.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand même si vous voulez, dans l'histoire de Mark Zuckerberg, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire, il y a beaucoup d'articles là-dessus, c'est qu'en fait, Mark Zuckerberg tient tête aux autres oligarques, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, et qu'il dit, en gros, moi, je n'ai pas à prendre parti sur les tweets de Trump. Les tweets de Trump sont les tweets de Trump, et je laisse, c'est le premier amendement. Et si des réseaux privés commencent à définir ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être publié, on a un vrai problème.
Facebook est dans le collimateur des Républicains. Ouais. Pour sa manière de classer.
On ne va pas en débattre, on va avancer.
De manière de classer les sites, notamment les sites de droite.
Ce qui est intéressant. Il y a une alliance entre les Républicains et Facebook.
Justement. Laurence Nardon, ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est quand même ce que peuvent faire les Républicains de ce paysage. Est-ce que Joe Biden, ça lui ouvre un boulevard ?
Les Républicains, les démocrates.
Les démocrates.
Alors, les démocrates, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe en ce moment chez eux, parce que donc on a une quasi investiture de Biden. La convention a été déplacée au mois d'août, mais il n'y a pas d'autres candidats pour l'instant. Enfin, il a le nombre de super délégués acquis. Mais comme il lui faut les voix des électeurs de l'aile gauche de son parti, donc Bernie Sanders et Elizabeth Warren, il a lancé au mois de mai 6 groupes de travail sur des grands sujets, l'économie, la santé, l'éducation, etc., avec des représentants de son propre camp au sein du Parti démocrate, donc le camp des modérés, et des représentants du camp des radicaux, donc les partisans de Sanders-Warren, pour discuter ensemble des sujets et produire ensemble une sorte de nouveau programme qu'il présentera au moment de la convention au mois d'août. Et ce nouveau programme, c'est là que c'est intéressant, devrait normalement présenter une sorte de consensus du Parti démocrate. Parce que ce qui se passe du côté démocrate, c'est que les deux ailes ne s'entendent pas du tout, sont vraiment irréconciliables sur beaucoup de sujets politiques. Et donc, il prend le taureau par les cornes en disant... Alors, enfin, je suis très optimiste, on va voir ce que ça donne. En essayant de produire un nouveau programme pour que tous les électeurs démocrates...
aillent comme un seul homme jusqu'au scrutin.
Voilà.
Est-ce que Nicole Bacharan, c'est une bonne idée? Biden, là, il vient de présenter son plan. François Durper en parlait. Son plan de relance à 700 milliards, ça, aller chercher Trump sur le terrain de l'économie, c'est la bonne idée ?
Oui, je suis absolument, pratiquement sûre que c'est la bonne idée pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, ça peut unifier le camp démocrate, puisqu'on sait qu'en 2016, un des éléments qui avait nui à Hillary Clinton, c'était que des électeurs de Bernie Sanders, surtout les jeunes, ne sont pas allés voter pour elle. Donc il a plus de force en ayant le parti uni derrière lui. Mais surtout, ce programme qui est plus à gauche que ne l'aurait été un Biden classique, si j'ose dire, est beaucoup plus audible aujourd'hui avec la crise sanitaire et la crise économique. Tout d'un coup, quand Joe Biden dit « acheter américain », dit « gros investissement public dans les infrastructures, dans les énergies renouvelables, emploi public, élargissement de la sécurité sociale au sens de l'assurance maladie, notamment avec là aussi une nouvelle option publique », ce rôle développé de l'État fédéral, qui n'était plus très à la mode, tout d'un coup, évidemment, évoque davantage d'écho dans la population qui est très frappée sur le plan sanitaire et économique que ça n'aurait été le cas auparavant. Donc je ne sais pas si Joe Biden aura la force politique, disons, de porter cela vigoureusement jusqu'au bout, mais je pense que ça correspond à l'état d'esprit d'une bonne partie du pays.
Et puis, vous en avez tous parlé, la blessure raciale se réveille. Ça fait aussi partie de cette nouvelle donne aux États-Unis. Il y a la santé, le problème du Covid, l'économie et puis la blessure raciale. Depuis le 25 mai, la mort de George Floyd, un noir tué par un policier blanc, une agonie filmée. Et depuis, les militants de la cause noire veulent abattre les statues de figures controversées de l'histoire américaine, des généraux confédérés, mais pas seulement, même l'héritage de Christophe Colomb est remis en cause. Un réexamen de l'histoire qui fait de plus en plus consensus chez les Américains. Regardez ce reportage de Barbara Steck et Nicolas Baudry-Dasson.
À New York, depuis jeudi, au pied de la Trump Tower, les lettres jaunes du slogan « Black Lives Matter », « Les vies noires comptent » s'étalent sur le bitume de la 5e avenue. Une action organisée par le maire de la ville.
Nous allons examiner chaque partie de cette ville, chaque institution, chaque agence, pour identifier le racisme institutionnel et le démolir.
Depuis la mort de George Floyd et la vague de manifestations antiracistes, les États-Unis continuent de s'attaquer aux fantômes de leur passé. Ces dernières semaines, un peu partout, des monuments de généraux, d'hommes politiques liés à l'esclavage ou à la colonisation sont brûlés, pendus, noyés. Des figures sudistes, mais pas que. Le navigateur Christophe Colomb est décapité, accusé d'être à l'origine du génocide des Amérindiens.
Ces gens sont des vandales, ce sont des agitateurs. Ils sont vraiment, ce sont des terroristes dans un sens.
Donald Trump, vent debout, multiplie les prises de parole pour afficher son indignation, comme il y a encore quelques jours lors de la fête nationale.
Nous ne laisserons jamais une foule en colère démolir nos statues, effacer notre histoire, endoctriner nos enfants ou piétiner nos libertés. Nous sauvegarderons nos valeurs, nos traditions, nos coutumes et nos croyances.
Malgré ce discours, des symboles de la domination blanche sont retirés. Au Congrès, quatre portraits de confédérés ont été décrochés à la demande de Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates à Washington.
Il n'y a pas de place dans les vénérables couloirs de cette démocratie, dans ce temple de la démocratie, pour commémorer les personnes qui incarnent l'intolérance violente et le racisme grotesque de la Confédération. Vous devriez voir les remarques qu'ils ont faites et à quel point ils ignoraient ce que nos pères fondateurs avaient en tête comme vision pour notre pays. Nous devons montrer l'exemple. Nous sommes donc heureux que cela ait disparu.
À Richmond, qui fut jadis la capitale des esclavagistes, la mairie a décidé d'enlever progressivement les nombreuses statues des généraux confédérés.
Je suis ravie, je suis vraiment contente. Je pense que cela aurait dû être fait il y a longtemps. Et en vérité, elle n'aurait jamais dû être mise en place au départ.
Les gens prêtent enfin attention à ce que cette statue représente réellement.
Plus au sud, le Mississippi vient de renoncer à son drapeau. C'était le dernier aux États-Unis à arborer l'étendard des Confédérés, rouge, bleu, avec des étoiles blanches. Un événement historique.
Il y a une différence entre les monuments et les drapeaux. Un monument reconnaît et honore notre passé. Un drapeau est un symbole de notre présent, de notre peuple et de notre avenir. Pour ces raisons, nous avons besoin d'un nouveau symbole.
Ce drapeau symbole de l'oppression raciste est défendu par Donald Trump, qui s'est attaqué à la décision de la NASCAR, le plus grand championnat de course automobile américain, qui vient d'interdire lui aussi ce drapeau dans ses gradins.
Et voici la question de notre téléspectatrice Marie-Madeleine qui nous écrit du Cher. Pour battre Trump, Biden n'aurait-il pas intérêt à être plus virulent sur la question du racisme? Je vais vous la poser, Anne-Lorraine Bujon.
Alors non, il faut qu'il soit assez prudent, Joe Biden. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a une émotion qui est très partagée dans le pays, une envie d'en finir avec ces blessures raciales, avec cette question de l'injustice raciale qui est si patente, qui se mélange aux inégalités sociales, etc. Donc Biden a pris fait et cause, si vous voulez, pour ses manifestants, manifester sa sympathie pour Black Lives Matter, etc. Mais il y a aussi, on l'a dit, derrière ces deux hommes, des recompositions politiques à l'œuvre, et il y a une aile gauche du parti républicain et du parti démocrate représenté jeune Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres. Et cette gauche du parti démocrate, elle fait peur aux électeurs centristes. Donc il faut trouver la ligne entre là, se saisir du moment, de ce moment d'émotion, des inquiétudes économiques pour présenter un programme de gauche ambitieux, on va dire, et c'est ce dont on parlait précédemment. Mais il faut aussi faire très attention de ne pas faire peur aux électeurs centristes.
Laure Mandeville.
En fait, je pense que vous avez tout à fait raison en fait de dire qu'il y a vraiment deux choses. Il y a d'une part cette émotion extrême, et je crois que il y a véritablement des sujets sur lesquels les Américains veulent débattre et doivent débattre, comme par exemple sur le drapeau confédéré, qui effectivement dans la population nord, moi je me suis beaucoup promenée dans le sud américain, et ouvre la blessure en fait, ouvre la blessure du passé, de l'esclavage, de la ségrégation, etc. Mais vous avez aussi la dérive à laquelle on assiste aujourd'hui et qui émeut une grande partie de la population et sur laquelle Joe Biden devrait être très prudent, clair.
De quelle dérive
cette dérive, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'attaque pas seulement à la question de l'esclavage ou à la question de l'héritage confédéré, mais à la question de l'héritage américain. Et ce qui est très intéressant, regardez ce qui s'est passé au moment du 4 juillet, qui est la fête nationale. Vous avez aujourd'hui, la fête nationale est devenue un enjeu idéologique pour la gauche américaine dont on parlait à l'instant, cette gauche extrême, puisque l'aile gauche du Parti démocrate et, je dirais, des idéologues extrêmement puissants au sein des universités américaines depuis des années, tente d'expliquer que l'héritage de 1776, l'héritage donc de la création de l'État américain, est un héritage par définition raciste et mauvais. Donc, et qu'en fait, l'Amérique commence en 1619, quand arrivent les premiers bateaux d'esclaves, et que donc il ne faut pas célébrer le 4 juillet. Et cela provoque une immense émotion et
Est-ce que ça peut inquiéter des républicains suffisamment pour...
Je pense absolument que c'est la question aujourd'hui sur laquelle Trump va jouer. Il va se présenter comme le Nixon de 1968, puissance 100, je dirais, avec cette question en disant « je vais être le rempart ».
Je suis la loi et l'ordre.
Je suis la loi et l'ordre et je suis le rempart des valeurs américaines.
François Durper, qu'est-ce que ça peut produire comme
effet? C'est difficile, oui, c'est ça. Il est à la fois cocktail Molotov et rempart, les deux.
On va passer la parole à François Durper, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça peut produire comme effet sur le vote afro-américain?
Le vote, évidemment, en termes de mobilisation, ça c'est évidemment, le vote afro-américain, il a fait perdre Hillary Clinton très clairement il y a 4 ans. Il a fait gagner Barack Obama, notamment pour sa réélection. Mais là, on n'est pas en train de parler des Noirs américains, on est en train de parler de l'Amérique blanche. Parce que Joe Biden, ce qui est en train de se passer, c'est que vous voyez que cette phase avec la mort de George Floyd, ça a fait basculer le discours de Donald Trump, qui parlait d'économie avant le Covid-19, avant la mort de George Floyd. Aujourd'hui, il parle de la loi et l'ordre. Et c'est lui qui parle des sujets identitaires aujourd'hui. Or, cette semaine, qu'a fait Biden? Il a dit, moi, je parle de l'économie. Et je vais ramener dans le giron démocrate la question du populisme économique, au sens noble du terme. Truman, c'est moi qui suis porteur du discours économique. Et Johnson. Et je suis aussi porteur d'un discours d'unité sur les questions d'identité. Je mets un peu de côté l'aile gauche, mais en disant, mais c'est l'Amérique blanche. Il y a des Noirs qui aujourd'hui se disent dans les manifestations, on est minoritaire.
Dans les Donc, manifestations, vous avez vu les cartes, images. Une redistribution de la mobilisation.
Oui, et d'un mot, allez-y. Juste un chiffre. 7 Américains sur 10 disent aujourd'hui, 7 Américains blancs sur 10 disent aujourd'hui, la question du racisme est une question fondamentale. Plus 26 par rapport à 2015. Et Biden l'a résumé en disant, on pensait qu'on avait résolu le problème en élisant un président noir. Donc, aujourd'hui, il y a cette Amérique blanche qui dit, il faut résoudre ce problème.
Pour le résoudre, au début de la campagne des primaires démocrates cette année, il y a eu énormément de débats sur le thème des réparations. Les réparations, c'est un immense projet de réparation à la fois psychologique et surtout économique que l'Amérique fédérale, si c'était adopté, verserait à tous les descendants d'esclaves. C'est un immense projet dont tous les candidats démocrates se sont saisis, sauf Biden qui, là aussi, est resté très prudent. Je pense qu'il ne peut pas éviter un débat sur les réparations. Et je pense que s'il est élu, on verra ce que ça devient.
Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Trump peut-il perdre l'élection présidentielle? Nous demande Catherine d'Eure-et-Loir. Nicole Bacharan, est-ce que les jeux sont faits?
Non, les jeux ne sont pas faits. Il peut la perdre. En ce moment, il est évidemment dans une très mauvaise passe, mais on l'a tous rappelé, c'est dans 4 mois. Je pense que la seule vraie chance pour Donald Trump de gagner cette élection, c'est sur l'économie. S'il arrivait en octobre à persuader les Américains qu'il est le mieux placé pour relancer l'économie, je pense qu'il garderait toutes ses chances. Bon, beaucoup d'événements totalement inattendus vont se produire, forcément pendant ces 4 mois. Et la deuxième question qui se pose, outre qui peut gagner et qui peut perdre, c'est si Donald Trump perd, acceptera-t-il cette défaite? Et de quelle manière se passerait la passation de pouvoir? Il y a une grande inquiétude sur ce thème, mais il n'est pas sûr du tout aujourd'hui qu'il perde l'élection.
Trump qui refuserait de quitter la Maison-Blanche, c'est de la politique fiction, Anne-Lorraine Bujon?
On en parle, les journalistes et les militants, ça circule. C'est aussi parce qu'il avait fait des phrases au moment de l'élection précédente, en semblant menacé si jamais Hillary Clinton l'emportait, mais de peu. Mais bon, je pense que c'est de la science-fiction.
Pour l'instant,
quand même,
on en est espérons. De la fiction. Les livres de John Bolton et de Mary Trump représentent-ils un réel danger pour Trump? Vous demande Rosie qui nous écrit de la Marne. Alors John Bolton, c'est l'ancien conseiller.
Son ancien conseiller à la sécurité nationale qui a évidemment sorti toute une série de révélations sur le fonctionnement de Trump face à, notamment aux Chinois que lui se vantait de complètement contrôler et d'être très très bon dans ce face-à-face avec les Chinois. Donc ça le dessert, mais regardez un peu le nombre de bouquins qui sont sortis depuis 4 ans. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu une avalanche de révélations sur Trump, il y a eu une avalanche de révélations sur sa vie privée comme celle que fait aujourd'hui sa nièce. Mais moi, je crois que les électeurs de Trump ont élu un homme dont ils savaient pertinemment qu'il était un pêcheur plein de défauts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas élu quelqu'un pour ses qualités d'homme. Ils savaient que c'était Machiavel, qu'il était brutal. Ils ne sont pas surpris. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils lui font encore confiance pour être le rempart dont je parlais tout à l'heure, ou est-ce qu'ils sont devenus trop exaspérés, je pense qu'ils le sont profondément, par son côté cocktail Molotov, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement secoue le bateau Amérique trop pour pouvoir rester à son poste.
L'ingérable Donald Trump ne devient-il pas encombrant chez les Républicains eux-mêmes, François Durpaire?
Non, parce que les Républicains se disent, ils ont aussi le Sénat à remporter, peut-être la Chambre des représentants, donc ils ont quand même la plupart pas le choix, ils doivent soutenir leur président et il leur reste un certain nombre d'atouts. On a dit, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il reste 4 mois. C'est pas tout à fait exact, il y a d'autres bonnes nouvelles. L'autre, c'est qu'il y a un avantage encore financier et organisationnel de Donald Trump, du président en place, même si effectivement ce mois-ci, Biden passe un peu devant en termes
de levée de fonds,
mais avantages financiers et puis inscription sur les listes électorales. Les démocrates sont restés confinés, ils sont restés aussi confinés pour s'inscrire sur les listes électorales. Les républicains, pour l'instant, sont devant. Alors ça va s'ajuster au fur et à mesure des jours. Il reste 4 mois, mais en tout cas, l'élection n'est pas faite.
On ne sait pas ce qui va arriver avec le virus. Donald Trump peut-il interdire le vote par correspondance qui l'inquiète tellement? Vous demande Abdel qui écrit de Charleroi.
Superbe transition avec ce que vient de dire François Durpaire.
Laurence
Parce qu'effectivement, il y a un sujet en ce moment sur la manière dont certains États républicains, depuis 2010, se sont efforcés de supprimer l'accès au vote des démocrates, c'est-à-dire des minorités, des plus pauvres dans leurs États, par exemple en exigeant une pièce d'identité avec photo. Aux États-Unis, c'est le permis de conduire. Donc ceux qui n'ont pas le permis de conduire, ben, c'est les plus pauvres, donc ils ne peuvent pas voter. En fermant certains bureaux de vote, parce qu'il n'y a pas une rampe d'accès comme il faut, ce qui fait que ça rend de nouveau les choses plus compliquées pour ceux qui n'ont pas de voiture, toujours les mêmes. Donc ça, c'est un premier point très, très grave, à mon avis, pour la démocratie américaine.
Donc ils essaient d'empêcher les démocrates de voter, mais est-ce que, par exemple, c'est possible d'empêcher le vote par correspondance ?
Alors cette année, avec le Covid, on essaye de développer le vote par correspondance. Et Trump prétend depuis plusieurs semaines que le vote par correspondance, en réalité, permet la fraude électorale dans les grandes largeurs. C'est ce qu'il dit. On sait que c'est faux, et d'ailleurs il s'est trahi lui-même parce qu'il a dit dans un de ses tweets, un de ses multiples tweets, si jamais on autorise le vote par correspondance, les républicains ne pourront jamais gagner. Ce qui était vraiment avouer les raisons de sa prise de position.
Lapsus. La crise du Covid-19 révèle-t-elle simplement, Nicole Bacharan, les faiblesses américaines comme elle a révélé les faiblesses françaises, vous demande Irène Durone.
Ah, mais très certainement, ça révèle les faiblesses en matière de santé, en matière de protection médicale, en matière de prévention. On sait que les Américains les plus touchés sont les plus pauvres et ce sont les moins bien suivis sur le plan médical. Ils ont toutes ces maladies secondaires qui sont beaucoup des maladies de la pauvreté, l'hypertension, l'obésité, etc. Ça révèle aussi des faiblesses sur le plan économique et racial, puisque les gens les plus modestes, on les trouve quand même beaucoup dans les minorités, même si ce ne sont pas les seuls. Et évidemment, ce sont les gens qui ont continué à travailler parce qu'ils ont des emplois indispensables, ils n'ont pas de réserve à la maison et qui plus est, leurs emplois sont des emplois indispensables, vendeurs, aides-soignants, magasiniers, etc., etc. Donc cette crise sanitaire, elle révèle évidemment les limites de la science, mais elle révèle aussi les faiblesses de l'organisation sanitaire, de l'organisation sociale économique et de l'héritage du racisme aux États-Unis.
Question de Gilbert de Leroux. Biden me semble bien mou. Est-ce le président que les États-Unis attendent ?
Il était mou avant le Covid-19. Joe l'endormi, c'était l'expression de Donald Trump. C'est toujours son expression.
Toujours.
Et il est devenu le leader stable dans cette période. C'est-à-dire qu'il a transformé quand même son image. Et alors, certains en plaisantent. Le directeur de campagne de Donald Trump dit qu'il est resté dans son sous-sol, hein, parce qu'il ne pouvait pas, évidemment, il était confiné. Il est quand même pas certain que c'est... Du côté français, il y a un Biden qu'on ne connaît pas. Ce Biden survivant, ce Biden de la résilience qui a perdu sa petite fille, qui a perdu sa femme, qui a failli mourir deux fois. Et donc, il n'est pas mou. Non, Biden est beaucoup...
Alors, la question, je vais la poser. La candidature de Kanye West, est-ce que celle-ci, est à prendre au sérieux, le rappeur, le mari Kim Kardashian?
Moi, je pense qu'elle est intéressante parce que c'était un grand fan de Donald Trump. Vous savez qu'il l'a soutenu. Et comme c'est le rappeur le plus populaire d'Amérique, ça a eu un impact. Mais ce que dit Donald Trump, c'est qu'il va prendre des voix noires à Biden et que, en fait, ça sera bon pour lui. C'est
alors,
ce
non, dit François Durpaire. Anecdotique pour vous.
Aucune voix afro-américaine.
C'est la fin. C'est la fin de cette émission. Un excellent week-end sur France 5. Merci à tous les 5 d'avoir participé. Et bien sûr, vous retrouvez Caroline Roux dès lundi, 17h45, pour un C'est dans l'air en direct.